Bonjour Gilles, bonjour à tous. Nous irons en Argentine dans un instant. Reportage au cœur d'une région devenue moteur dans l'exploitation du gaz de schiste. Le problème, c'est que l'industrie consomme une quantité d'eau phénoménale et les agriculteurs locaux s'en plaignent. Vous l'entendrez dans le reportage de notre envoyé spécial. On parlera aussi de la situation sécuritaire en Haïti et avec notre invité, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, on se demandera comment lutter contre l'impunité qui gangrène le pays. Et puis l'actualité des Outre-mer, comme chaque jour. Serge Massot, vous nous parlerez tout à l'heure d'une première mondiale dans le secteur médical entre les Antilles et Paris.
Un cœur prélevé en Martinique et greffé à Paris après un voyage de 12 heures, c'est une première saluée par la revue Medical The Lancet.
On vous retrouve dans un quart d'heure environ. Merci à tous d'être avec nous.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
C'est la journée mondiale de l'eau aujourd'hui. Un enjeu majeur. Plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Et le changement climatique complique encore la donne. L'eau est une ressource de plus en plus précieuse et elle génère parfois des conflits. C'est le cas en Argentine, dans la province de Rio Negro. On y exploite beaucoup le gaz de schiste. Mais le processus consomme énormément d'eau et toute cette exploitation s'effectue au détriment de l'agriculture. C'est un reportage de notre envoyée spéciale Stéphanie Schuller.
Le nord de la Patagonie argentine abrite l'un des plus grands gisements de gaz et de pétrole de schiste au monde. Le site a été baptisé Vaca Muerta. Pour extraire ces hydrocarbures piégés dans les formations rocheuses, les multinationales ont recours à la fracturation hydraulique ou fracking. Cette méthode consiste à créer des fissures souterraines par injection à haute tension de produits chimiques, de sable et d'une quantité phénoménale d'eau douce.
La fracturation hydraulique a besoin d'une eau de qualité sans sel, comme celle qui coule dans nos cours d'eau.
Explique Agustín González. Ce professeur en agronomie à l'université de Neuquén est inquiet. Depuis 10 ans, l'État argentin et toutes les grandes multinationales exploitent les hydrocarbures non conventionnels de Vaca Muerta. Grâce à eux, l'Argentine compte atteindre l'autosuffisance énergétique et devenir un pays exportateur de gaz liquéfié, présenté comme le fioul de la transition énergétique. L'exploitation est donc en pleine expansion et avec elle, les quantités d'eau utilisées.
Selon les chiffres officiels, on est passé en 3 ans d'une moyenne de 5000 mètres cubes d'eau par mois à 100 000 mètres cubes au mois d'août dernier. Face à cette utilisation exponentielle d'eau douce, la question est donc de savoir jusqu'à quand nos fleuves pourront résister.
Un mètre cube, c'est l'équivalent d'une tonne d'eau. L'eau nécessaire à la fracturation hydraulique est directement pompée du Rio Neuquén et du Rio Negro. D'immenses tuyaux serpentent le long des routes et à travers le paysage de Vaca Muerta. Or, cette même eau sert depuis un siècle à l'agriculture. Dans cette région semi-désertique, sont en effet produites les pommes et les poires, consommées en Argentine, mais aussi en Europe pendant l'hiver.
Le Rio Negro nous apporte une eau d'excellente qualité qui provient de la fonte des neiges dans la cordillère des Andes. C'est grâce à cette eau que nous avons pu transformer nos sols pour en faire une terre de production agricole de classe mondiale. Or, le changement climatique nous affecte déjà. Nous avons subi 10 ans de sécheresse. En dépit de tout ça, nos autorités misent sur une stratégie de court terme et néfaste pour l'environnement, plutôt que sur une activité qui devient de plus en plus primordiale, la production alimentaire.
Selon l'ONU, 70% d'eau douce sur la planète est utilisée pour l'agriculture, alors que la production d'énergie représente 15% des prélèvements d'eau au niveau mondial. L'exploitation et la transformation des énergies fossiles sont particulièrement gourmandes en eau, alors que l'énergie solaire et éolienne n'utilisent qu'une quantité d'eau négligeable. Par conséquent, les scientifiques insistent sur l'urgence d'investir massivement dans ces énergies renouvelables, notamment dans les régions du monde confrontées et de plus en plus à d'intenses périodes de stress hydrique.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va maintenant prendre la direction d'Haïti où les violences des gangs font une nouvelle fois la une de la presse. Vous l'avez lu pour nous, Achim Lippold. On peut lire par exemple aujourd'hui que face aux groupes criminels, la police agit alors que les politiciens attendent.
Oui, exactement. C'est le titre de l'éditorial du Nouvelliste. Aujourd'hui, le journal de Port-au-Prince souligne que la police haïtienne a multiplié les actions contre les gangs depuis une semaine dans la région métropolitaine, que ce soit à La Boule, Pétionville ou encore pour défendre la Banque centrale. Les agents de la PNH ont affronté avec succès les bandits. Côté politique, les choses avancent aussi, mais lentement, les politiciens attendent que les propositions des représentants au Conseil présidentiel de transition soient validées par la CARICOM. Comme le souligne le Nouvelliste, Anne, si les Haïtiens ont fait leur choix, eh bien c'est la communauté internationale qui a le dernier mot, qui doit valider ce choix. Donc, alors que la police agit, les politiciens attendent qu'on leur prenne la main, résume le Nouvelliste.
La police qui a tué hier un chef de gang.
Oui, c'est à la une de la presse haïtienne. Le puissant chef de gang de Delmas 95, Tigray, qui a pu s'évader récemment avec plus de 3000 d'autres détenus de la prison civile de Port-au-Prince, a été abattu par la police. Tigray a été proche du parti PHTK de l'ancien président Jovenel Moïse, précise Gazette Haïti. Et selon le journal, il est responsable, entre autres, de l'assassinat de plusieurs manifestants anti-Moïse.
Achim Lippold, on va continuer à parler d'Haïti, de la manière de juger tous ces crimes et ceux qui ont été commis précédemment avec notre invité. Bonjour Jacques Létang.
Bonjour Madame Cantonet.
Vous êtes le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Haïti troisième pays au monde où l'impunité est la plus grande. On va se demander avec vous comment juger donc ces innombrables crimes commis dans le pays, tout récemment et bien avant. Alors on a appris cette semaine la composition du Conseil présidentiel de transition et une condition était imposée aux partis politiques. Ils devaient choisir quelqu'un n'ayant jamais été condamné. Que pensez-vous de cette disposition ?
Ne serait-ce que pour une question de forme, c'est nécessaire, d'autant plus qu'au regard de la constitution haïtienne, il est très clairement édicté que les personnes ne bénéficiant pas d'une bonne conduite, des bonnes vies humaines, notamment ceux ou celles qui ont été condamnées à une peine afflictive et infamante, ce n'est pas des personnes éligibles à exercer en fait la fonction présidentielle.
Donc un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est catastrophique. Les violences sont quotidiennes. Comment est-ce qu'on peut faire pour revivre ensemble après ça, Jacques Létang ? Et quel est le rôle de la justice ?
Aujourd'hui, on en est à l'aboutissement de longs processus et on peut même considérer qu'aujourd'hui, on a atteint un nouveau palier avec l'effondrement des institutions de l'État et la justice aussi qui est un acteur incontournable dans l'instauration de la paix en Haïti. Eh bien, la justice, elle s'est révélée défaillante et à plusieurs niveaux.
La justice qui fait partie de ces institutions qui se sont effondrées, en effet, est-ce qu'aujourd'hui, elle a quand même des moyens pour juger les crimes qui sont commis en Haïti ?
Là, tout de suite, au niveau de la capitale, je dirais que c'est quasiment impossible parce que nos institutions judiciaires, des tribunaux de paix, je sais ça, la Cour de cassation qui siège à la capitale et dans les communes avoisinantes, elle n'arrive plus à fonctionner, elle n'arrive plus même à ouvrir les portes. Donc, il va falloir vraiment que les forces en présence, les forces politiques en présence qui sont en train de discuter un devenir pour Haïti, eh bien, puissent faire preuve de courage et d'imagination. Et cette fois-ci, j'espère que ça sera vraiment un vrai pouvoir de transition qui va essayer d'adresser ces différentes exactions du passé et redonner confiance à la population haïtienne en sa justice.
Alors, ces exactions dont vous parlez, elles ne sont pas nouvelles. La situation est particulièrement difficile en ce moment et elle s'est considérablement dégradée. Mais il y a eu de très nombreux crimes commis au cours des dernières années, voire même des dernières décennies. Et les crimes n'ont jamais été punis. Les crimes des dictatures, par exemple, il y a eu des exactions de la part des gangs, mais aussi de la part de la police. Je pense par exemple au massacre de la Saline en 2018. Jamais il n'y a eu de condamnation pour tout ça.
Exactement. Et en fait, malheureusement, l'État, à travers ses agents officiels, a toujours du mal à appliquer la norme conventionnelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que Haïti, en fait, se laisse traverser par une culture de l'impunité. Et puisque les autorités judiciaires ont du mal à rendre justice, ont du mal à écouter les victimes, ont du mal à donner une place aux victimes, ont du mal aussi à établir les faits sur les exactions qui ont été commises.
Mais pour quelles raisons ? Est-ce que c'est à cause de pression politique, à cause de corruption ?
D'un côté, il y a l'indépendance qui n'est pas garantie à 100%. En tout cas, l'indépendance au niveau de la loi, elle est garantie. Mais on se rend compte que les magistrats qui sont là pour appliquer la loi, en fait, pour rendre la justice, ils sont très loin vraiment de se montrer indépendants, même si il faut admettre qu'il y a une poignée de magistrats quand même qui arrivent à se démarquer du lot, à faire un travail honorable. La solution à ce problème qui a trop traîné, elle n'est pas pour demain. Il va falloir en fait qu'on prenne conscience de l'immensité du problème pour essayer de faire preuve d'imagination afin de pouvoir le résoudre convenablement.
Et ça pourrait passer par quoi, par exemple? Est-ce qu'il faut s'orienter vers des mécanismes de justice transitionnelle, comme on a pu le voir dans un certain nombre de pays?
Oui, je pense que par rapport à ça, la mise en place des outils de justice transitionnelle, ce n'est pas une voie à négliger. Même s'il n'y a pas de système parfait en matière de justice transitionnelle, mais je pense que pour permettre de refavoriser le vivre ensemble entre Haïtiens et Haïtiennes, pour permettre aussi aux victimes de trouver justice, pour permettre aussi à la société de savoir ce qui s'est passé réellement, pour permettre à tous et à toutes d'avoir une idée sur les faits qui se sont déroulés ces dernières années, il va falloir mettre en place les outils de justice transitionnelle. Et ça va permettre aussi d'établir, en tout cas, de restaurer l'autorité de l'État.
Et alors, ces mécanismes de justice transitionnelle, est-ce que ça pourrait être mis en place rapidement, selon vous?
À mon avis, et les conditions de mise en place d'une justice transitionnelle ne sont pas encore réunies au jour d'aujourd'hui en Haïti. Parce qu'un des premiers principes à envisager dans la mise en place de justice transitionnelle, c'est la sécurité. Et à cela s'ajoute aussi une véritable volonté politique.
Et alors, dans l'intervalle, est-ce qu'il faudrait, par exemple, envisager un recours à la justice internationale?
Oui, d'ailleurs, j'y pense. Je pense qu'il va falloir, en fait, qu'on pense à la combinaison de plusieurs mesures judiciaires et mesures non judiciaires. Je pense par exemple à la mise en place d'une commission de vérité qui se chargera d'enquêter sur les faits qui ont été commis, d'établir la vérité, d'écouter les victimes. Et je pense aussi à la mise en place d'une juridiction internationalisée en Haïti pour adresser en fait les accusations les plus graves.
Merci beaucoup Jacques Létang d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des barreaux d'Haïti et membre du Bureau des droits humains d'Haïti. On va continuer à parler d'Haïti. On va revenir sur des rumeurs qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Depuis 2 semaines environ, des propos affirment que le cannibalisme serait une pratique courante dans le pays. Et pour en parler, nous sommes avec Chloé Lauvernier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24 et vous avez enquêté sur ce sujet.
Oui, on s'est intéressé à ce sujet car ces rumeurs ont été très relayées sur les réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, certaines publications ont été vues des millions de fois. Donc on a voulu les vérifier. Ces rumeurs s'appuient notamment sur des articles qui sous-entendent que le cannibalisme serait courant en Haïti sans fournir toutefois de preuves concrètes. Et ces rumeurs s'appuient également sur quelques vidéos. Sauf que 2 de ces vidéos viennent en réalité de la Chine et du Nigeria et ne montrent pas des faits réels de cannibalisme. Dans la première, on voit des personnes qui semblent cuire à la broche et dans la deuxième, on voit des parties d'un corps humain dans une marmite. En revanche, 3 autres vidéos semblent bel et bien montrer des scènes de cannibalisme en Haïti. La première date de février de cette année et elle montre un chef de gang de Mariani, un quartier de Carrefour, qui s'adonne à cette pratique. La deuxième remonte au 1er novembre 2021. Elle a été prise à Pétionville. Et d'après notre enquête, les faits de cannibalisme qu'on y voit correspondraient à un acte de vengeance contre un voleur de moto. Et enfin, la troisième vidéo a été diffusée autour du 15 mars 2019. Elle aurait été prise à La Saline et la personne dont la chair est mangée serait un partisan d'un ex-chef de gang.
En fin de compte, Chloé, ce que vous avez remarqué surtout, c'est que ces cas de cannibalisme qui seraient avérés, qui semblent avérés, reste extrêmement rare.
Exactement. Et ces rares cas concernent surtout des gangs qui veulent terroriser leurs gangs, des gangs rivaux et la population, tout en sachant qu'ils peuvent agir en toute impunité. En tout cas, les rumeurs qui ont circulé récemment exagèrent largement les choses.
Et alors, qui les diffuse, ces rumeurs ?
Eh bien, parmi les comptes qui relaient ces rumeurs, on trouve entre autres Elon Musk, le patron de X, et des comptes basés aux États-Unis qui sont plutôt hostiles à Joe Biden et favorables à Donald Trump. Ces comptes relaient ces rumeurs de cannibalisme pour présenter les Haïtiens comme des sauvages, pour appuyer leur thèse selon laquelle l'immigration serait un danger pour les États-Unis dans le contexte de la campagne pour l'élection présidentielle américaine. Par ailleurs, ces rumeurs de cannibalisme ont également été partagées par des comptes qui affichent le drapeau de la République dominicaine et qui publient régulièrement des contenus racistes à l'égard des Haïtiens.
Merci Chloé Lauvernier pour toutes ces explications et on peut retrouver toutes vos enquêtes, tout votre travail sur le site des Observateurs de France 24.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
On vous retrouve à Rimlipol pour lire la presse du continent. Retour en Argentine, où l'émotion est très grande après l'agression brutale d'une militante d'une association de victimes de la dictature.
Je croyais qu'ils allaient me tuer. Ce témoignage est à la une de Página 12. Un extrait de l'interview que le journal a réalisé avec la jeune femme, fille d'un ancien détenu sous la dictature. La militante qui fait partie de l'association Hijos raconte le calvaire qu'elle a subi en rentrant chez elle après le travail. Deux hommes se sont introduits dans son appartement. Ils l'ont attaché, frappé, abusé sexuellement et menacé de mort. Nous sommes venus pour te tuer, on a été payés pour ça. Lui ont-ils lancé avant de peindre sur les murs les lettres VVLC pour Viva la Libertad Carajo, Vive la Liberté Bordel, un des slogans fétiches du président Javier Milei. L'agression date de début mars, mais pour des questions de sécurité, l'association Hijos l'a révélé seulement hier, jeudi, à trois jours d'une grande marche du souvenir des victimes de la dictature. Cet acte brutal est considéré comme une tentative d'intimidation par la gauche. Argentine. La victime, dont l'identité n'a pas été dévoilée, accuse d'ailleurs le gouvernement du président Milei qui, selon elle, provoque la terreur et la cruauté. Je veux que la justice identifie ceux qui m'ont fait ça, mais aussi qu'elle trouve l'appareil qui est derrière tout ça, a déclaré la jeune femme au journal Página 12.
Merci Achim Lipol. Votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Serge Massot.
Bonjour Anne.
Une transplantation de cœur inédite entre les Antilles et Paris.
Oui, cela s'est passé en janvier et l'information a été révélée hier. Un cœur a été prélevé sur un homme de 45 ans en Martinique et a été greffé à Paris sur un autre homme âgé de 70 ans. Le tout après un voyage de 12 heures, une durée inédite. Écoutez le chirurgien cardiaque François Roch au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique La Première.
C'est une première parce que jusque-là, il n'existait pas de solution technique qui permettait de faire survivre un cœur entre le moment où on le prélève et le moment où on le greffe et on le met dans la poitrine du receveur. Les cœurs étaient transportés dans une glacière au frais, mais la durée de vie et de fonction de ce cœur ne dépassait pas 4 heures. Là maintenant, par la technique qui a été mise en place dans le programme Pégase, les cœurs vont pouvoir vivre hors de la poitrine et du donneur et du receveur pendant une douzaine d'heures. Ça nous permet d'envisager que nous puissions avoir des patients martiniquais, guyanais, guadeloupéens qui puissent bénéficier d'une greffe en étant pris en charge aux Antilles.
5 sites historiques ultramarins pourront être rénovés grâce à l'édition 2024 du Loto du patrimoine et parmi eux, la maison Emmanuel, une habitation créole située à Cayenne, en Guyane, et construite dans les années 1930. Alexandra Silbert de Guyane La Première.
La maison Emmanuel a été construite par une missionnaire indépendante, Madame Lanica. Elle accueillait à ce moment-là des enfants en pension complète. Les parents les déposaient pour partir travailler en dehors de Cayenne. Ensuite, la maison Emmanuel a servi à des activités diverses, toujours en lien avec la religion protestante et la jeunesse. Elle cesse toute activité un peu avant 2010. Boiserie, fondation, structure, charpente et façade, couverture du toit, étanchéité. Une fois rénovée, la maison Emmanuel proposera une ludothèque, du soutien scolaire pour les jeunes de 9 à 15 ans et un accompagnement à la parentalité.
Et puis en Guadeloupe, les élèves du collège Sylviane Telchide à Capesterre-Belle ont refusé d'entrer en classe hier matin, choqués après avoir découvert des pièges à rats dans l'établissement. Plus de peur que de mal, cela signifiait que le problème était déjà réglé et la dératisation terminée. Yana Derbois, représentante des parents d'élèves.
Une dératisation a été faite, mais les élèves ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils n'ont pas été informés. Il y a des pièges qui ont été installés. Ils ont pu constater les boîtes sans être informés et c'est ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. Donc on va tenter de raisonner nos élèves en tant que parents, représentants de parents d'élèves, pour pouvoir les inviter à rejoindre l'établissement.
Et les élèves ont repris les cours en milieu de matinée. C'était des propos recueillis par Eric Stimfling de Guadeloupe La Première. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot et merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 13h10, temps universel. Et d'ici là, vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur l'appli RFI Pure Radio. Restez à l'écoute. Dans quelques secondes maintenant, Littérature sans frontières.